Bien, voilà, donc merci, merci de l'invitation, d'être là. Déjà, j'ai venu à BTL l'année dernière de me faire venir, on n'a pas réussi à trouver une instance pour le calendrier, donc je suis content de venir vous montrer ceci. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis maintenant 2 ans. On avait commencé avec Yoro, mon producteur ici, et puis depuis l'année, il y a aussi un CETA qui travaille avec nous. Je vous montre pas grand chose aussi sur ce sujet. Donc, c'est un sujet un peu particulier parce que c'est rare pour nous, sismologues, de pouvoir travailler sur quelque chose qui a une application très immédiate. Et ça, c'est un. Je crois que je vais essayer de vous convaincre que ça, c'est une application dans laquelle, au bout de 1 voire 2 ans, on a des applications utiles. Dans la société et qui sont en train d'être mis en fonctionnement. Donc l'idée c'est que, on a tous sûrement entendu parler de comme quoi les tsunamis voyagent plus lentement que les ondes sismiques et que donc on peut profiter de la sismologie. La sismologie fait partie en général des systèmes d'alerte, en tout cas de la partie rapide, de la première partie d'alerte pour le cas d'un tsunami. Ici, je voulais simplement vous montrer un exemple à lequel un sisme assez important a frappé sévèrement au bout d'à peu près 1 heure. Et parce que dans les premiers instants, dans les premiers moments, il n'y a pas eu d'information correcte, rien n'a été fait, alors que dans 1 heure, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Ça, c'est un premier exemple. Il a eu une information qui était donnée très vite, c'est que c'était à magnitude 6-8-7. Ça a été confirmé par les Japonais une demi-heure après. Et donc, rien n'a été déclenché en termes d'alerte. Et puis en fait, c'était quand même bien plus grand. Et il fallait trouver le calcul. Un autre exemple, c'est ce site au large du Japon, c'est un exemple spécial, 1896, Saint-Rico. Donc c'est un volage ici à l'est, et ici vous avez jusqu'à 30 mètres de Honda, et c'était un grand désastre. Là c'était pas très loin, et c'était à peu près 30 minutes après le séisme. Et donc la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment en 30 minutes? Et ce que je vais vous montrer c'est que, au niveau global, je veux dire, en prenant des stations à l'échelle télésismique, nous on peut, je vous montrais tout à l'heure, on peut donner une réponse, une information importante au bout de à peu près 20 minutes. Et au niveau régional, là je parle pour le cas du Japon, au bout de 6 minutes on peut donner, oui, du colonne, hauteur d'eau dans la terre. Donc la partie qui est inondée, voilà. Il y a eu des lots jusqu'à 30 mètres sur le niveau normal de la mer. Ça, c'est donc ce qui s'est passé, simplement. Ce qui s'est passé, c'est qu'ici, au large de Sarim, il y a eu ce séisme de magnitude 7.2, et il y a eu donc la vague qui a été générée, et qu'une demi-heure après, est arrivée ici, sous la côte. Bien, donc, de quoi il s'agit? Il s'agit d'essayer de contribuer à une alerte rapide suite à un tsunami. Alors, je vais être un peu plus précis tout à l'heure, ce que je veux dire par rapide, en cas de sisme majeur, et ça aussi, c'est un autre. Je vais être un peu plus précis sur le mot majeur, sur ce qu'on peut faire. Les données qu'on va utiliser, c'est les WP, je vais tout de suite être un peu plus précis là-dessus. Depuis 2 ans, on a développé deux applications, une application à une échelle globale et une application à une échelle régionale. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de ce qu'on a fait à l'échelle globale. Et pourquoi cette WSpace? Parce que, d'une part, elle arrive rapidement, et donc c'est intéressant en termes de l'alerte. Et puis, comme je vous le dirai un peu plus tard aussi, elle est très peu sensible cette terminalité latérale et au détail de la source. Et donc 0 plus 3. En même temps, Du coup, ça veut dire aussi qu'elle n'est pas intéressante, par exemple, pas spécialement simple pour faire la tomographie, pour dire quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que la tomographie? Ici, ça, c'est des traces où j'ai simplement intégré, bêtement, donc c'est j'ai pris des traces d'un vélocimètre, j'ai simplement intégré, et je vois déjà ici des longues périodes que vous voyez ici. Ça, c'est Sumatra, à des distances. Je commence ici, pas trop loin, 26 degrés. 27 degrés, vous voyez, du grand période, juste après la baie, comme des lignes, on le voit à peine. Et si vous allez un petit peu plus loin, 41, 44 degrés, 49, on est là. C'est là, mais c'est tout très prévu. Je répète, ça, c'est simplement des traces intégrées. Et comme on est en train de parler des très longues périodes, ça ne veut pas dire grand-chose, il faut toujours les convoluer correctement. Et on va le faire tout de suite. Je vais un peu plus loin, 50 degrés, 60 degrés, 70 degrés, vous avez toujours des oscillations très longues périodes là-dedans. Ça, c'est le cas de Sichuan. Ça, c'est la trace où tout à l'heure, où j'ai simplement intégré une fois. Et ici, c'est la trace dans laquelle j'ai enlevé l'instrument vraiment et je me suis borné à regarder entre 200 et 1000 secondes. Et on est en train de parler donc de cette énergie que vous voyez apparaître ici très tôt, après la baie, et qui en principe, en fait, ça continue. Tout à l'heure, vous allez voir, on va vouloir nous s'arrêter ici pour éviter d'avoir des zones de surface. Je vais être un peu plus précis tout à l'heure. La première fois que cette phase a été identifié, disons, c'est suite au séisme de Nicaragua en 92. C'était Kanamori, dans un petit peu plus de 93. C'est ici où il l'a vu, mais, à nouveau, une fois que vous êtes convolué, selon les mêmes constatations, et que vous regardez à ces longues périodes, c'est ceci que vous voyez. Et peut-être, ça c'est pas la version officielle, mais peut-être que c'est pour ceci que cet homme s'appelle Dombuffet. Donc, l'idée c'est d'utiliser ce signal qui arrive très tôt, qu'on va voir tout à l'heure est assez robuste, pour essayer de inverser pour la source. Alors, qu'est-ce que c'est? Comme je vous dis, c'est relativement récemment qu'elle a été nommée, qu'elle a commencé à être regardée. De toute façon, elle n'a pas été regardée. Il y a eu ses papiers de Kanamori, il y a eu un papier de Vidal, en 1597. On a beaucoup discuté, il y en a qui ont parlé de Whispering Gallery, vous le savez, c'est par exemple dans la cathédrale de Saint-Paul. On peut s'entendre d'un bout à l'autre, parce que les sons se propagent d'une certaine façon en suivant en rebondissant le bord. Et donc ça, c'est l'autre version pour laquelle on parle de Dombuffet. En fait, comme vous allez le voir tout à l'heure, il n'y a rien de vraiment mystérieux, c'est le champ élastique tel que si on le calcule complètement, elle vient tout naturellement. À terme des modes, c'est peut-être la façon dont je préfère de le regarder. À terme des modes, on va voir tout à l'heure, on est en train de parler de certaines vitesses des groupes et de certaines périodes précises. Alors, pourquoi vouloir faire encore une inversion? Il y en a plein, qui sont développés, qui apparaissent tout le temps. Alors, l'idée, c'est que pour les très gros séismes, c'est quelque chose qui manque. Pour les très gros séismes, on n'a pas une solution robuste dans l'heure qui suit. C'est-à-dire que, normalement, il nous faut attendre typiquement quelques heures, voire une journée, pour avoir la solution d'arbre. Je parle vraiment des gros séismes, même 7,5, 8. Souvent, on a d'autres solutions qui arrivent dans les quelques heures, mais elles sont pas mal changeantes. Et de toute façon, il faut attendre quelques heures pour les avoir. Parce que, en général, elles sont passées souvent sur les zones de surface, et il faut attendre quelques heures pour avoir ça. Donc, il nous semblait qu'il fallait essayer de remplir ce problème. Et puis, dans ces grands séismes, il y a aussi des problèmes qui peuvent être loin des lois d'échelle standard, et donc fallait mieux regarder vraiment les signaux et aller mesurer profondément à très longue période le moment signal. Disons les merci à cette période. Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est des sondes qui vont relever très rapidement, c'est pour ça qu'elles arrivent très tôt dans le sismogramme. Entre, je disais tout à l'heure, entre la paix, juste après la paix, disons. Donc, on est en train de parler des vitesses de propagation, des vitesses de groupe entre 4 et 9 km par seconde. Ce qui veut dire qu'à niveau. Tout à l'heure, je vais être encore plus précis, mais au bout d'une demi-heure à peu près, on a les signaux qu'il nous faut. C'est donc très insensible pour cette horizontalité latérale, en particulier les superficielles, qui sont celles qui sont les plus fortes. Et puis, au détail de la source. En fait, même, je vous montrais tout à l'heure, même le sisme de Sumatra est traité ici comme un sisme ponctuel, comme un travail ponctuel. Et non pas dans le temps, il y a une histoire temporelle, simple, à faire, mais spatialement c'est un point. Et donc on a développé une inversion. Je disais pour les modes tout à l'heure, c'est la certaine façon que je préférais de le voir. Ici vous avez la vitesse des groupes, 4, 6, 8, 10 km par seconde, des modes sphéroïdaux pour frein. Je reviendrai aussi sur le frein tout à l'heure. Ce qui va nous intéresser, c'est les choses qui arrivent, qui voyagent à des vitesses entre 7 de ligne droite, entre 7 de ligne rouge, entre 4,5 et 9 km par seconde. Ça pour la vitesse. Et pour la période, on va typiquement regarder entre 200 et 1000 secondes. En faisant cela, on est en train de laisser dehors cette branche ici des fondamentaux. Qui voyagent beaucoup plus lentement et qui vont donc arriver après, ce sont les, ce qu'on appelle typiquement les zones de surface, qui vont arriver plus tard parce qu'elles voyagent plus lentement, et qui dépendent beaucoup plus de la structure superficielle et qui sont sensibles donc de ce théorème. Et donc en faisant cela, en arrêtant avant les zones de surface, une des avantages c'est qu'on s'affranchit de cette dépendance de la structure superficielle. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a rien de mystérieux. Si vous faites si vous calculez un sismogramme synthétique par résorption modale, c'est ce que vous avez ici en rouge, et vous voyez très bien ce que je vous montrais tout à l'heure, le long période qui apparaît là-dedans, qui apparaît, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir calculer ceci? Il nous faut une localisation. Un T0, un moment où le sisme arrive. Il nous faut un modèle. Dans toutes les applications globales que nous avons faites pour l'instant, nous avons toujours utilisé FEM. Et ça fonctionne très bien, même si on sait très bien que FEM est faux partout. FEM est peut-être très bon en moyen, mais en moyenne, mais ça va être difficile de trouver un endroit où FEM est bon. Localement. Et pourtant, ça se passe très bien. Pour l'application régionale, on a même. Jusqu'à maintenant, on a toujours utilisé FEM, mais l'étape suivante va être d'utiliser des modèles plus appropriés pour chaque région. Et puis, donc, une fois qu'on a fait deux choses, on fait une sommation et on a des décisions. Alors, un petit détail technique qui est assez important, en fait, que c'est pas si petit, même si c'est tout bête, c'est que, ça, c'est un exemple de sismogramme dans lequel la saturation est évidente. Mais il est assez courant, beaucoup plus qu'on ne le pense, qu'on a entre les mains des sismogrammes qui sont saturés, mais dans lesquels on ne voit pas la saturation parce que depuis une vingtaine d'années, vous savez, les acquisitions sont telles qu'on digitalise à des très hautes fréquences et on vient à des fréquences avec lesquelles on travaille à 20 ou à 6 ou à 1 par décimation et filtrage successif. Qui fait que très souvent, on a des traces qui ont été saturées à l'origine, mais qu'on ne le voit pas du tout à l'heure. Parce que c'est très joli, c'est très lisse, et en fait, c'est pas vrai. Et le cas de Sumatra était très évident, c'était un très bel exemple, on va le voir tout à l'heure. Et donc, si vous prenez une trace comme celle-ci, et que vous faites une décomposition de l'instrument dans le domaine fréquentiel, vous allez avoir des gros problèmes. Parce qu'en fait, la trace que vous êtes en train d'essayer de convoluer n'est plus la convolution de la réponse instrumentale avec quelque chose. On essaie de forcer quelque chose qui n'est pas vrai, et donc en particulier, vous allez vous retrouver avec ce genre de problème. Et donc, ce que nous on fait, c'est qu'on fait la déconvolution instrumentale dans le domaine temporel. On ne parle jamais en Fourier, on fait tout dans le temps. Ce qui fait que ça marche très bien jusqu'au moment où ça sature. Et nous, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc, cette phrase qui autrement ne faudrait même pas la poubelle, est une phrase parfaitement utile pour nous, et c'est d'ailleurs c'est typiquement le genre de phrase qu'on est en train d'utiliser. On est en train d'utiliser la formation qui est ici, avant que la phrase ne soit pas saturée. Alors, quelle est la fenêtre qu'on va utiliser? On va utiliser une fenêtre dans les sismogrammes qui commence au moment d'appel et qui se termine, ça c'est tout à fait empirique, hein, on la définit comme ça, quand soit delta. Delta c'est la distance, et quand soit delta, lorsque delta est en degré, ça nous donne des secondes. Et la raison de ceci est essentiellement parce qu'on veut éviter les zones de surface. Et on veut les éviter pour deux raisons. D'une part, parce qu'on veut éviter la contamination par la structure superficielle, et d'autre part, parce qu'on veut éviter la saturation. Et comme on entend parler des séismes relativement importants, on va souvent avoir affaire à des traces saturées, donc on veut ne pas rentrer dans ce domaine du sismographe. Ça, c'est un jeu de données typique. Chaque segment, là, correspond à une station. Là, elles sont concaténées. Et elles sont classées par ordre de distance, c'est pour ça que vous avez des segments de simplement. Et là, elles sont donc, comme j'ai oublié de le dire tout à l'heure, elles sont chiffrées entre 200 et 1000 secondes. Et ce vecteur-là, cette phrase, comme ça, concaténée, est notre vecteur des données. Dans la version. Et la version, c'est une version linéaire triviale. Vous avez ici les fonctions des lignes qui correspondent aux éléments du tenseur. Et vous avez ici les traces concatenées. Ces fonctions des green correspondent donc à une faille ponctuelle calculée à par sommation moyenne. Et le genre de résultat que l'on obtient, le voici. Si nous utilisons la localisation préliminaire, c'est en fait la seule chose dont on peut disposer au bout de 15 minutes, on va dire, après un grand séisme. On a la localisation préliminaire. Donc, on n'essaye pas d'organiser, on calcule les synthétiques en supposant que le séisme, que le symbole, ce qui est faux bien sûr, est là-dedans. Oh, bien sûr, non, en principe. Et c'est ceci que l'on obtient. Vous avez ici à droite la solution dans ce cas-là des arbres, comme référence. À chaque fois, vous allez voir tout à l'heure plein de mécanismes, à chaque fois, il va y avoir un petit mécanisme à droite dans une couleur sombre comme référence. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un balayage en testant la localisation du centre. C'est-à-dire qu'au lieu d'assumer que c'était le PDE, la localisation du centre préliminaire, on a balayé autour de celle-ci, et c'est celle-ci la solution qu'on trouve. Et la troisième est ici simplement pour référence, parce que ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris leur localisation, la localisation d'Arabat, et on a fait la version en utilisant cette localisation. Donc ceci, on ne peut pas le faire. Ce sont celles-là qu'on peut faire. Celle-ci va mettre un petit peu plus de temps. Je vais parler de ça tout à l'heure. Et celle-ci est faite avec la localisation clinique. Alors, le fit correspondant, le voici. Vous avez en rouge les traces synthétiques et en noir les données. Et là, pour Tocatio, il n'y a pratiquement pas de suite. Tout à l'heure, on va voir un écran un petit peu moins joli, mais quand même, ils sont souvent, pour la plupart du temps, très très jolis. Il y a difficilement des choses à gagner là-dedans, si on veut, si on reste dans un modèle tout simple, comme ça, les choses sont faites. Ça, c'est sous ma phrase 2007. Toujours pareil. PDE. Un centroïde optimisé, c'est-à-dire après avoir fait un balayage pour la localisation, en utilisant la position du centroïde, dans ce cas-là du GSMT, Et ça, c'est leur solution. Hein. Et vous voyez une chose que je ne sais pas si ici, je reviens à la précédente. Là, ça n'a pas beaucoup tourné. Ici, ça a tourné un peu, vous voyez. Et ça, c'est assez systématique. C'est-à-dire que, à cause de la fausse localisation du Saint-Paul, on a une bonne magnitude, on a un moment sismique qui est assez robuste, mais le mécanisme, souvent, il tourne. Il tourne à la cible.
C'est lié à la profondeur ?
Non, c'est lié essentiellement à la mauvaise localisation. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le balayage, on le voit très bien. Si on dessine toutes les sphères focales dans le grid cell sous-spatial, on le voit tourner. On le voit tourner et celui qui est au centre, il se colle souvent très bien avec la vague. Mais les autres qui sont autour, ils tournent. Lorsqu'on le bouge en horizontal. Il y a une chose que je voulais vous dire, c'est qu'on fait aussi. Il y a deux paramètres que le nom de vous ne sait pas parler, il y a deux paramètres qui sont aussi cachés là-dedans, c'est la partie temporelle de la source. Il y a deux choses. Il y a un terme de la source, c'est la fonction temporelle, c'est simplement un terme. Et donc il y a deux paramètres temporels qu'il nous faut pour la décrire. Il y a la largeur, dans ce cas-là, c'est la demi-largeur, mais c'est pareil. Et puis le décalage entre le centre du triangle et l'initiation de la rupture. Et donc, ce qu'on fait ici, c'est que on fait un balayage de ces paramètres, une inversion de ces paramètres deviendrait non linéaire. Donc, on laisse la radiation linéaire telle qu'elle, et on fait un balayage des valeurs possibles pour ces paramètres-là, avec des valeurs initiales qui sont en fonction de la magnitude préliminaire. Et on trouve donc le meilleur. Ça, c'est le magnifique. C'est beau. Et si je vous vois bien, voilà, celui-là, ça c'est Sumatra 2004. Et donc, vous voyez un nouveau, avec PNE et avec le GCNP, il y a une rotation. Une rotation, comme on l'a vu souvent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence? Si, il y a le problème de la magnitude. Donc, dans ce cas-là, Harvard avait donné une magnitude 9. On sait maintenant, 0.9 en fait, dans ce cas-là. Eux, ça veut donner 9. Nous, si on utilise leur solution, on tient ici 9. Et ici, avec le PD, on avait 9.3. Dans ce cas-là, c'est un exemple très très clair, mais on va le voir à nouveau revenir. Il y a un trade-off pratiquement complet pour des sédiments très superficiels entre le deep et le moment sismique. On peut même l'écrire analytiquement, c'est assez simple à le voir. Alors ici, ça c'est une figure que je veux faire depuis longtemps et malheureusement je ne l'ai pas fait. Là vous avez certaines stations dans lesquelles il y a un fuite quand même relativement important. Et il se trouve que c'est très bien corrélé avec la sismique. C'est-à-dire que pour Sumatra, qui est une source qui mesure 1000 km, c'est en fait la directivité qui n'est pas du tout prise en compte dans le modèle et qui apparaît quand même, même si on est à très longue période et même si on est en train de parler des ondes qui voyagent très rapidement, ce qui amortit un petit peu la directivité, il y est quand même de toute façon et ça explique en grande partie ce milieu qui est toujours là. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on évitait de rentrer dans les ondes de surface. Ici, je vais vous montrer un certain nombre de figures pour ce matin 2004, où vous avez en noir les données, en rouge les synthétiques, et ces deux points-là indiquent les limites du segment qui est utilisé pour l'inversion. Et donc, vous voyez, c'est vraiment le petit début qu'on est en train d'utiliser. Et vous voyez comment, après, c'est du n'importe quoi. Et ça, c'est des capteurs qui ont complètement niqué, qui ont sorti du rang linéaire, qui ont basculé, Là, c'est des traces qui ne servent à plus rien. Oui. Et vous voyez, même à des distances, alors malheureusement, vous ne pouvez pas dire, vous pouvez dire la distance, ça fait 15 degrés de distance, 20, 22, 25, 28, 29, toujours par ici, des traces qui ne servent à plus rien ici, le capteur a complètement été parti, c'est dans les choux.
incroyable ça, que ça se faisait de l'ordre zéro, là, de ton X-Fit en nombre de surface.
Oui, tout à fait. On est sorti jusqu'à 40 degrés, presque tout le réseau était saturé.
Oui,
mais
c'est comme sous échantillonnés qui se mettent les amplitudes à zéro.
Comment ?
Ce que tu disais tout à l'heure, c'était sous échantillonné et que c'était ça qui faisait disparaître les grandes amplitudes en fin de finale. Hein. C'est pas sous échantillonné des traces saturées qui fait que tu te retrouves avec des amplitudes à zéro.
Non, j'ai pas de sous échantillonné. J'ai décomposé.
Ah oui, elles sont en noir.
Oui, elles sont parties, elles sont très loin. Elles sont complètement dehors de l'échelle. Oui, elles sont complètement dehors de l'échelle. Les filles commencent à être à peu près comme ça. Elles reviennent un peu. Et comme je vais un petit peu plus loin, là je suis à 33 degrés, 36 degrés, 40 degrés. Et c'est les capteurs qui n'ont pas tenu le coup. Et ça, c'est quelque chose qui est important à savoir.
Ben oui, parce que les autres, ceux qui font d'autres types d'études, c'est
un très gros sigme.
Oui.
Mais c'est des patients qui l'ont. Non, parce que par exemple, ceux qui s'intéressent au vol, eux, ils commencent beaucoup plus tard. Ça va à la poubelle. Ça, ces traces-là, pour la plupart d'applications, partent. Elles ne sont pas utilisées. Elles ne peuvent pas être utilisées, je veux dire. Elles sont saturées et positionnées.
Mais cette saturation vient de quoi exactement ? De l'aspect mécanique ?
Ça peut être l'aspect mécanique, le tilt, par exemple, des tilts importants qui vont se reporter sur les différents composants, c'est un problème que je connais bien.
Parce qu'au niveau feedback électronique, il n'y a pas de souci, c'est largement suffisant.
Le problème du feedback, c'est que peut-être si c'est un tilt très fort, on peut avoir des hautes fréquences dont le feedback n'est pas capable de suivre.
C'est incroyable, hein.
Ouais. Je crois pas.
C'est du lithium.
Oui. C'est terrible. C'est-à-dire que ça, c'est le réseau mondial.
Oui.
C'est ça dont on dispose. C'est-à-dire que si on a un antisme comme ça, pareil, on va voir plein de traces saturées.
Mais il y a encore la métallurgie à faire.
Non, mais. 44, ça commence un petit peu à tenir le coup, là. Mais c'est pas dur, hein. 45, 48, ça se termine, je crois, 60, 53, non. C'est essentiellement des sens là. Alors, donc, si on fait le bilan du temps qu'il nous faut pour faire cela, il y a deux choses. Il y a d'une part, déjà, l'arrivée de la paix, et puis il y a la fenêtre que l'on a définie tout à l'heure, 15 fois delta. Et donc, le moment auquel on est prêt pour faire le calcul, c'est pas disons qu'on va dire qu'on va prendre des données par exemple jusqu'à 50 degrés, alors il faut qu'on attend 20 minutes.
Plus de temps de la localisation préliminaire.
La localisation est bien avant. On a la localisation préliminaire au bout de entre 10 et 15 minutes. Et le calcul serait long, mais nous savons tout recalculer, ce qui fait que l'inversion est des coefficients instantanés. La partie balayage est un peu plus longue parce qu'on doit tester, mais ça c'est une question de machine. Là, pour l'instant, on travaille sur des choses tout à fait standards. Donc, si on s'arrête avec des données qui vont jusqu'à 50 degrés, on peut dire quelque chose au bout de 22 minutes. Si on peut attendre un peu plus, si on attend une demi-heure, alors on peut venir avec des données, mettons jusqu'à 90 degrés, et avoir plus de données. Et c'est effectivement le genre de choses qu'on va faire. Alors, souvent, lorsque la localisation est telle que vous savez suffisamment de données des stations autour à des distances relativement proches, on peut faire très bien. Si je m'arrête à des distances de 60 degrés, dans ce cas-là, c'est sur ma trace 2007, je dispose de 22 traces et au bout de 25 minutes. Donc au bout de 25 minutes, ce que nous, on a défini comme double phase est arrivé à 60 degrés, et c'est ceci la version que nous faisons. Si on veut faire un peu plus rapidement, alors on s'arrête à 50 degrés de distance, ce qui nous ramène à 23 minutes, et on a seulement 14 traces. Et ainsi de suite, je peux descendre donc à 40 degrés, voire dans ce cas-là, c'est pas tous les jours, mais dans ce cas-là, je peux descendre à 30 degrés, qui me fait à 13 minutes une solution qui est tout à fait honorable. Oui, mais à nouveau, ça dépend de venir jusqu'à Paris, ça dépend vraiment beaucoup de où est la localisation par rapport au réseau. Une autre chose, c'est que, puisqu'on a faim de chercher quelque chose de plus robuste possible, qui ne soit pas trop dépendant de. Et on s'est intéressé à regarder, avant de faire rien comme inversion, simplement regarder les amplitudes brutes de la WP. Et là, vous avez donc les traces, et vous avez 5 mm, 1 mm, 1 demi-mm pour des 9, 2, 8, 6, 8, 4, et on s'est dit donc que l'amplitude brute, lue comme ça directement, avant de faire n'importe quelle inversion, était une mesure aussi déjà pas mal robuste de la taille du séisme. Et ceci, c'est ceci que ça donne sur une comparaison directe de la magnitude, après coup, de la magnitude d'Arba, par exemple, avec cette mesure d'amplitude. Ça, c'est intéressant parce que, du coup, on n'a pas besoin. Je vous ai dit tout à l'heure un peu rapidement que le paramètre de largeur du triangle était une fonction de la taille du séisme. C'est-à-dire qu'on partait d'une magnitude préliminaire, et de celle-là on tire une demi-durée préliminaire, et ensuite on obtient. Ceci nous donne une possibilité de ne pas dépendre de qui a fait ou comment cette magnitude préliminaire a été faite. On peut la faire nous-mêmes directement à partir d'une mesure rapide de l'amplitude de la phase de vie.
Mais par contre, là, ça dépend quand même du mécanisme. Quand tu dis l'amplitude, c'est en fait l'amplitude
moyenne.
Ou moyenne.
Oui, moyenne. Ça, là, on fait quelque chose de très simple. C'est-à-dire que pour faire cette mesure donc, qui est rapportée ici, on fait la chose suivante. On mesure donc grossièrement l'amplitude sur l'ensemble des stations et on fait un fit à l'azimut pour permettre une variation toute simple de genre de phi, deux fois l'azimut. Et donc, en permettant cette variation, on peut obtenir, on peut récupérer une valeur moyenne, et c'est celui-là qu'on utilise comme mesure de l'amplitude.
Et ça, c'est le petit a du a moins b sur 2.
Oui, ici, il y a la partie cosinus et la partie. Ça dépend de comment on paramétrise. Mais effectivement, il y a deux paramètres, il y a la partie constante et la partie cosy. Et selon comment on le paramétrise, ici, ça vous donne l'amplitude moyenne ici. Dans ce cas-là, ceci est la partie moyenne. Parce qu'il y avait un cosinus de phi ou quelque chose comme ça. Faudrait juste montrer tout à l'heure si je veux. En tout cas, dans le papier, on l'a bien indiqué. Alors, dans le cas de l'opération à temps réel, voici grosso modo comment on fonctionne. Il y a le séisme qui arrive à photon T égale 0. Au bout d'une quinzaine de minutes, on dispose d'une localisation. Typiquement pour le cas global, c'est le PNE. Pour le cas régional, ça dépend des agences. Au Japon, c'est la GMA. Il nous faut, et on a besoin de cela, c'est-à-dire que nous, on n'est pas en train de faire de la localisation nous-mêmes. Une fois qu'on a ça, on fait deux choses. On démarre ce que j'ai marqué ici en vert. Ce qui est marqué en vert, c'est simplement la partie calcul qui va être nécessaire pour les balayages. Oui, donc je vais essayer de faire plein d'inversions en testant beaucoup de positions possibles. Il y a quand même un certain calcul à faire, pour faire des rotations, des fonctions de Green, etc. Donc je démarre ici en background, même avant d'avoir reçu mes données, parce que les données vont arriver plus tard. Même avant d'avoir reçu les données, je démarre un calcul dont j'aurai besoin plus tard. Oui, pour pouvoir couvrir la région. Et au bout de à peu près 21 minutes, comme je vous disais tout à l'heure, j'aurai toutes les données à moins de 50 degrés de distance. Et avec ces données-là, je peux faire d'abord une estimation préliminaire de la magnitude, et puis, en pratique, en même temps, parce que ça ne met pas de temps, je peux faire une première inversion, la version que j'ai appelée tout à l'heure P2, et donc j'ai une première solution au bout de 21 minutes. Juste une petite remarque complémentaire, tous les temps dont je vous parle ici, c'est des temps en supposant que les données sont à ma disposition. C'est-à-dire qu'à ça, il faut rajouter la latence des données dans les transmissions et dans le. Qui peut-être assez variable. Mais donc, ce qu'on fait typiquement, c'est qu'on se donne, une attente typique et les données qui ne sont pas là, ben, tant pis pour eux, on s'en sert. Et donc, au bout de 22 minutes, on a une première solution. Et si on attend 35 minutes, on peut faire le balayage, donc tester la position du PDE tout autour de la position PDE et calculer notre propre sample, si on peut dire. Et avec, il y a la solution qui va. Il y a un petit plus dont je vous parlerai tout à l'heure qui est dessiné là. Voilà, donc c'est ça typiquement l'opération en temps réel. Je ne veux pas vous fasciner avec chacun de ces livres. Là, c'est une expérience qu'on avait prise a posteriori devant les données. Et on avait testé tout ce qui était plus grand que 7. Et je vais peut-être pas les lire là pour ne pas vous revenir. Voilà. Donc ça c'est une comparaison de la magnitude préliminaire, donc avant toute inversion. Et la magnitude là. Et on a, je ne sais pas, plus ou moins 0.3 qui sont, et ce qui est déjà, en gros, finalement, si on n'a même pas fait une inversion, qu'on a simplement fait une mesure de l'amplitude et un bit en azimut et c'est tout, c'est déjà très intéressant et ça c'est disponible donc 20 minutes après. Ça devient ceci lorsqu'on fait l'inversion. Toujours avec les mêmes données, avec les données à 50 degrés. Et là, vous avez à nouveau la magnitude CMT et celle de l'inversion. Et ça, ce sont les mécanismes qui sont ceux du P2E. Donc, qui sont souvent un petit peu tournés. Ici, il y a un exemple très intéressant dans lequel, en fait, si vous allez dans la littérature, vous allez voir que par la suite, on a bien compris que ce n'était pas du tout celle-ci, la solution, c'était plutôt celle-ci. Et ça, c'est la solution qui a été oubliée, qui a été faite par hasard depuis au début. Ça, c'est la magnitude calculée après optimisation. Donc là, on peut le voir peut-être un peu mieux comme un histogramme de la différence des magnitudes. Et vous voyez qu'on est essentiellement entre plus ou moins 0.1 en magnitude. Et ça, donc, pour faire cela, on a utilisé des données jusqu'à 90 degrés, c'est-à-dire qu'on a attendu 35 minutes. J'ai oublié de vous dire que dans tout ce que je vous ai montré jusqu'ici, on a utilisé que des verticaux. Par contre, donc depuis quelques... je reviens tout à l'heure sur l'histoire des verticaux parce que j'ai passé ici. On a maintenant développé et on est en train de faire tourner avec le 300%, mais je voulais vous montrer le balayage ici du sample. En jaune, vous le voyez mal, c'est le PDE. Parfois. En vert, c'est la position du sample en bas, on va dire. Et en rouge, il y a la norme, c'est-à-dire celle qui sort de l'optimisation. Donc, ce qu'on a fait, c'est tout simple, on a testé, on a mis le sample ici, on a mis la source ici, on a inversé. Et on a calculé un suite quadratique. Et la couleur représente une suite quadratique. Et en blanc, on a rapporté là-dessus les répliques d'une journée. C'est-à-dire que là, on est en train d'utiliser ces répliques comme une approche pour la taille de la radio. Et ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que cette tache bleue, couleur que vous voulez, mais la forme et voire la taille du pattern de mi-suite est bien corrélée avec la taille de la hauteur. C'est-à-dire je suis en train de vous dire qu'on a une piste ici pour être capable de donner une idée de la taille de la hauteur une demi-heure après celle. Oui, ça reste à le quantifier mieux, à le faire fonctionner, mais ça peut être une piste intéressante pour pouvoir extraire cette information rapide.
Donc, je vais passer sur des développements de variabilité de piste pour
tout à l'heure. Là, par exemple, là, j'ai fait sur d'autres, et ici, c'est celui qui saute aux yeux, c'est que de toute façon, sur ma trace, c'est 1000 km. Donc, il est beaucoup plus large que le carreau qu'on a réussi quand il y a des catégories, là par exemple vous avez Nia. Nia c'était bien une source qui est rompue dans les deux sens, oui, qui est dans une rupture bilatérale, donc on trouve bien notre synchrone, une question simple. Je reviens peut-être sur le cas de Sichuan. Sichuan c'est aussi très joli. Il a commencé ici au sud-est, il a rompu vers le haut. Et puis il y a un cas là, il y a un cas très particulier, c'est celui-ci de Curie. Curie en 2006, en décembre 2006 et janvier 2007, il y a eu deux séismes. Deux séismes qui n'étaient pas loin l'un de l'autre, une centaine de kilomètres peut-être. Tous les deux des magnitudes 7 et quelques, plutôt 8, des mécanismes opposés. Et ce qui est intéressant ici, il y a plein de choses à faire sur ce séisme, mais ce qui est très intéressant, c'est que le premier séisme est venu, ici, à gauche, ça correspond à cette position là. Mais tout de suite, instantanément, il y a eu bien sûr des répliques chez lui, mais il a commencé à. Cette tâche ici a commencé à se remplir. Et un mois plus tard, il est venu le dossier magnitude 8 à cet endroit-là. Et donc ici on voit les deux, ça c'est indépendant de nos buffets, c'est simplement qu'il y a les deux taches blanches dans la figure. Alors ici il y a une comparaison un petit peu plus systématique des tenseurs de moment sismique. Et vous voyez à chaque fois la ligne composante, MRR, donc le vertical, Mθθ, Mφφ, Rθ, Rφ et Θφ. C'est donc ça. Bien, disons. Mais une chose jolie, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure au début, c'est lié à ces deux figures. À celle-là, vous voyez qu'elles sont, moins bonnes. Elles sont systématiquement plus éparpillées. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont ces deux-là, MRθ et MRφ, qui vont définir le type. Donc le fait que ceci soit éparpillé, c'est simplement directe du trade-off très fort pour les séismes superficiels, la plupart des séismes sont très superficiels, entre 0 et 25 km, entre le deep et le monde. Donc ça c'est des solutions quelques séismes pour les plus gros, des solutions une fois optimistes, c'est-à-dire une fois arrivées à l'IRH, c'est ça. Là il y a toujours le second travail. Alors, ça c'est autre chose complètement différent, ça c'est beaucoup plus récent, c'est un résultat depuis 2-3 mois, ça fait partie du travail de Zachary, dans lequel il y a donc un temps réel, une solution avec les trois composantes qui est en train de tourner, et vous avez la solution à 50 degrés, avec des données jusqu'à 50 degrés, la solution optimisée avec des données jusqu'à 90 degrés, et la solution de la barre de GSM-TR. Je ne dirai pas beaucoup plus, je dirai simplement, je vais vous montrer un exemple qui nous pose un peu le problème et qui est intéressant, c'est ceci, au Vanuatu. Au Vanuatu, il y a la chose suivante, c'est qu'il y a trois semaines, vous avez eu, en quelques heures, vous avez eu 4 séismes de magnitude plus grande que. En fait, il y a 3 plus grands que 7. Et un 6.8, je vois le voir tout à l'heure. Et donc, en fait, là-dedans, il y a plusieurs séismes. Il y en a un ici, en plus tard, vous êtes capté. Mais là-dedans, il y en a 3. Une fois filtré et convolué, voici les traces. Voici la trace, la trace que j'entends du monde. Et donc, les segments que l'on a d'utiliser, ils sont là. Et vous voyez que. On peut avoir un problème d'overlapping des traces qui va nous compliquer la tâche. Dans ce cas-là, en fait, ça ne s'est pas trop mal passé parce que le dossier séisme ici, il est clairement plus fort que le premier. Donc la solution, la version finalement, elle a marché pas mal. Ici, le cas, c'est encore pire. Ici, on n'a pas pu fournir une solution. Nous, on a ça, mais on ne sait pas non plus ce genre, parce que vous voyez, on a des amplitudes très importantes des mots de tel antérieur qui correspondent à ce thème, mais qui sont en train de venir là. Donc, lorsqu'on a, avec quelques sorts qui viennent, des séismes très forts, il va falloir s'en occuper. C'est-à-dire, soit il y a plusieurs pistes, soit on calcule, on résout pour le premier. Ça, là, on l'a fait bêtement en inversé, à l'aveugle, et ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est pas nécessairement comme ça, ça va pas être comme ça toujours, parce qu'on peut avoir des amplitudes importantes. Donc, l'idée de la séance, soit on calcule des plus longs synthétiques et on les soustrait des données et on travaille sur des résidus. Soit, une fois qu'il y a le deuxième séisme, on fait une inversion pour les deux séismes en même temps. Très bien, ça reste d'abord. Ça fait partie de ce que nous allons tester dans les mois qui viennent. Alors, ça c'est un petit peu à côté, c'est lorsqu'on veut réduire un petit peu la magnitude. Là, pour cet exemple que je vous ai montré, c'est tous pour des séismes plus grands que 7. Il y a une pression, entre guillemets, pour qu'on puisse descendre plus. Par exemple, il y a une inversion actuellement qui tourne, de ceux-ci qui tournent à l'UGL, et eux, ils sont en train de faire des solutions jusqu'à des magnitudes à peu près 6. Je suis un petit peu réticent parce que moi-même, je n'ai pas bien testé les si bas, donc je suis un peu sceptique, mais bien. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaie de descendre en magnitude? Ce qui se passe, c'est assez clair si on regarde cette figure, ça c'est une figure typique du bruit. Du bruit, donc vous avez en bas à l'intérieur, vous avez ici 5 secondes ici, et vous avez 10 secondes par ici, et le bruit, typiquement, il monte lorsqu'on va à l'intérieur. Et donc, nous, on est en train de travailler à 200 et 1000 secondes par ici. Et lorsqu'on a des séismes de magnitude 7 ou plus, on va dire, la plupart du temps, on est au-delà du bruit et on peut travailler sans problème sur ceci. Mais si on essaye de travailler sur des séismes qui vont être moins importants, on va commencer à empiéter sur le bruit. C'est-à-dire qu'il y aura du bruit qui va apparaître, on va essayer d'inverser le bruit. Et donc l'idée, c'est de corriger, de shifter un petit peu la bande passante dans laquelle on va travailler lorsqu'on veut descendre la magnitude. Et typiquement, ce genre de choses qu'on est en train d'essayer de tester, c'est-à-dire de déplacer la bande systématiquement. On démarre juste ici, un peu de son et demi, puis on déplace un petit peu vers les autres écarts, disons, mais pas trop non plus, parce qu'on veut quand même rester tel en fait. Voilà, donc je veux peut-être m'arrêter là. Je veux rapidement vous dire que donc, on est en train d'essayer d'inverser des signaux qui voyagent profondément dans la Terre et qui sont donc pas très affectés par les structures, qui arrivent quand même rapidement. Effectivement, c'est important qu'on fait tout dans le temps. Ça nous permet de diviser des données qui vont être saturées par la suite. Avec le réseau global tel qu'il est actuellement, on est sûr qu'on est capable de résoudre en magnitude 7 sans problème où qu'il soit. Donc ça avec des données jusqu'à 50 degrés. Actuellement, il y a donc plusieurs applications en cours. Et puis, on procède en temps réel comme ça. On fait une première à partir de l'amplitude, au bout de 20 minutes, on a une première estimation de la magnitude. À peu près en même temps, on peut faire la première inversion et on a un premier mécanisme au foyer et avec sa magnitude qu'il y avait. Et si on attend un peu plus, si on attend un peu 35 minutes, on peut faire le balayage pour chercher notre propre synthroïde. Et fournir donc cette solution-là. Et un dernier détail, c'est que dans le cas du Japon, on est en train de travailler donc sur une quelques 15 degrés, peut-être, oui. Disons que volontairement, on a décidé d'arrêter de n'utiliser que les données jusqu'à 14 degrés de distance. Et cela nous donne donc une solution au bout de 6 minutes, dans le cas régional. Et ça, c'est pas à jour. Là, on est en train de tester simplement une bande. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait un chiffre en fonction de la magnitude plus systématique. Voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire. Merci.